des livres plein les oreilles. Va falloir vous habituer à cette musique, à cette nouvelle musique, à ce nouveau générique, nouvel indicatif et aussi une nouvelle émission. Je vous avouerai qu'il y a un petit peu de fébrilité dans le studio de Canal M aujourd'hui. Oui, c'est une première, c'est l'émission numéro 1 de votre nouveau rendez-vous littéraire avec ce nouveau titre, des livres plein les oreilles, consacré aux livres audio adaptés bien sûr et toujours disponible gratuitement, hein, vous le savez, par toutes sortes de moyens. D'une part par le SQLA, ça c'est via la BANQ, mais aussi des livres de l'INCA, de l'INCA et d'autres sites européens dont il sera régulièrement question à cette émission où vous pouvez télécharger aussi des livres et ça c'est important. Si vous voulez contacter SQLA pour vous inscrire, c'est simple, vous pouvez aller sur le site ou qu'une personne près de vous aille sur le site sqla.banq.qc.ca et il y a un numéro de téléphone, le 1-866-410-0844. Je vous le redonne, 1-866-410-0844. Alors aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec Jean Brière et puis j'ai aussi en studio le très bien nommé Alain Labonté, cet homme de cœur et de mots. Et aussi nous retrouvons un habitué, Gérard Saint-Denis, qui aura sa chronique une fois toutes les deux semaines. Alors cette fois c'est parti, des livres plein les oreilles. Et mon premier invité est déjà au bout du fil, je lui avais promis qu'il serait le premier invité de la première émission et quand je fais une promesse, généralement je la tiens, c'est Jean Brière de Québec. Bonjour Jean.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous? Comment s'est passé l'été?
Oh fort bien, et vous?
Ah oui, mais oui, très très bien, oh là là. Vraiment.
Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre nouvelle formule.
Ah ben c'est très gentil à vous, Jean, et puis je vous remercie de m'avoir fait cette proposition de venir d'ores et déjà émission-là. Comment?
Puis je vous confie un mandat personnel.
Ah oui?
Celui de nous présenter que des bons livres durant toute la saison.
Ah ben alors là, vous m'en demandez beaucoup, mon ami, mais on va essayer. Aujourd'hui, justement, parlons de bons livres. De quoi nous parlez-vous?
Ah, ben moi, c'est un très bon livre que je veux vous présenter. C'est
oui.
Un long titre. C'est une chose étrange à la fin que le monde, de Jean d'Ormesson.
Oui.
Jean d'Ormesson, c'est tout un numéro, vous savez, ce monsieur-là. Je le savais pas.
Oui.
J'ai glané ça sur Wikipédia cette semaine.
Académicien, notamment, aux côtés de notre ami Daniela Ferrière, oui.
Tout à fait, c'est même le doyen de l'Académie française. Il a 90 ans.
Ah oui, hein? Il est incroyable.
Il se fait surnommer Jean Dau ou bien l'écrivain du bonheur.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Et le livre que je vous propose, il fait partie des 5 meilleurs ouvrages publiés par l'auteur. Il en a publié beaucoup, beaucoup d'ailleurs, mais il y en a au SQLA, près, je pense, 8.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, il y en a d'autres aussi à l'INCA, bien évidemment.
Oui.
Alors, celui-ci, de quoi traite-t-il? Parce qu'il y a toujours un sujet de fond, hein, avec d'Ormesson, il y a toujours quelque chose. Et puis, c'est quand même très, très philosophique, souvent. Hein, on s'entend, même si là, c'est un roman, quand même.
Oui, il le prétend comme un roman, il le mentionne comme tel. Je veux quand même préciser, il est disponible à l'INCA et aussi au SQLA.
D'accord.
Et puis, il y a une durée de, moi j'aime ça savoir ça, de 6h30.
Très bien. Avec une lecture que vous avez appréciée?
Oui. Ah oui, c'est bien lu. C'est une Française.
Ah bon, ben voilà autre chose. Peut-être que son nom me dirait quelque chose, mais je sais pas.
Moi, je le qualifie, puis l'auteur le qualifie aussi comme ça, c'est le fabuleux roman de l'univers.
Rien de moins.
Oui. plus prosaïquement, on pourrait dire que c'est un essai philosophique là, sur l'histoire de l'humanité, de l'évolution des connaissances aussi de l'humanité.
Ah oui, ça va, parce que ça va de la mathématique aux philosophes grecs, hein, tout ça, c'est vraiment très large.
Tout à fait, il ratisse large.
Il ratisse large.
Moi, en écoutant ce roman-là, je l'ai écouté plusieurs fois, ça m'a fait penser, c'est en quelque sorte un hymne à la beauté du monde.
Ah oui, hein? Oui.
Ah oui, c'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup de raisons, vous savez, d'être fâché des fois contre le monde, de critiquer vous savez, la guerre, les injustices, les famines, tout ce qu'on peut vivre et déplorer. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien aussi de s'émerveiller devant la beauté du monde.
Oh combien! C'est pour ça que je suis contente que vous parliez de ce livre-là, alors que dans quelques minutes, je vais m'entretenir avec Alain Labonté, parce que c'est le genre de propos qu'Alain Labonté aurait pu tenir lui-même, ça. Alors, voyez-vous, tout se rejoint. Qu'est-ce qui vous a séduit, touché le plus dans ce livre-là, Jean Brière?
C'est l'espoir, c'est l'admiration de l'humanité. L'humanité qui est partie de zéro, qui a appris à domestiquer le feu jusqu'à envoyer des fusées interplanétaires. C'est fantastique, ça. C'est fantastique. Moi, j'ai trouvé ça admirable. Puis c'est devant cela aussi que d'Ormesson s'émerveille. Il se demande à la fin de son livre, est-ce que j'ai écrit un bon livre? Selon lui, il dit, ben moi, en tout cas, ça m'a procuré du bonheur. De la confiance, de la paix, une certaine espérance. Alors ça, c'est déjà beaucoup. Hein?
Oui, c'est sûr. Il dit que l'une des clés du mystère, c'est le temps. Hein? Le temps qui passe, le temps à venir, le temps. Ça, je pense que c'est un des éléments essentiels de ce livre-là. Hein?
Tout à fait. Il est divisé en trois parties. Ça se lit comme un roman, effectivement. Ça se lit très bien. Ce sont des courts chapitres.
Oui.
La première partie porte sur, justement, l'histoire de l'évolution de l'humanité. Puis c'est toujours en confrontation un chapitre qui s'intitule « Le fil du labyrinthe ». Ça, c'est vraiment le travail que l'humanité a fait pour découvrir la vie, pour découvrir son monde. Le fil du labyrinthe, et en opposition avec le rêve du vieux. Puis le vieux, ça c'est Dieu. C'est l'image de Dieu qu'on peut se faire, peu importe qu'on soit chrétien, musulman ou d'une autre religion.
Oui, parce que lui, il est complètement agnostique.
Oui, lui, il n'est pas très croyant, effectivement. Mm-hmm. Mais il ne dit pas qu'il ne l'est pas du tout. Alors, c'est l'image de Dieu, l'image de l'esprit. Mm. Et puis, l'esprit, le rêve du vieux, donc, fait des réflexions sur l'humanité.
Oui.
Le vieux s'émerveille devant les efforts de l'humanité pour comprendre leur monde. Et c'est vraiment passionnant, l'opposition entre ces deux types de chapitres-là qui sont courts et qui se lisent très, très bien. Il y a une deuxième partie où l'auteur s'adonne clairement à l'admiration, à l'émerveillement devant... justement l'évolution de l'humanité.
Oui.
Il dit que l'histoire est un roman qui a été, que l'univers finalement attendait la pensée humaine pour se révéler.
Oui.
Alors c'est développé en plusieurs chapitres. Et puis il discute justement de la question que les humains se posent depuis très longtemps. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et enfin, la troisième partie, c'est une réflexion sur la mort, parce que la mort, ça fait partie de la vie, et il fait une réflexion, puis il se demande aussi, justement toujours avec la question de l'existence de Dieu, il mentionne que si Dieu n'existe pas, bien la mort, c'est la fin de tout.
Oui.
Alors, on réfléchit là-dessus avec lui là, durant quelques chapitres. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
Il y a un très, très court extrait que je voudrais partager avec les auditeurs. Je vous rappelle qu'on parle du livre de Jean d'Ormesson, « C'est une chose étrange à la fin que le monde », où il dit « Je ne sais pas si Dieu existe, mais depuis toujours, je l'espère avec force ». parce qu'il faudrait qu'existe tout de même ailleurs quelque chose qui ressemble d'un peu plus près que chez nous à une justice et à une vérité que nous ne cessons de rechercher, que nous devons poursuivre et que nous n'atteindrons jamais. Oh, alors en plus, quelle plume, hein?
Oui, oui, il écrit très bien, puis il va de quelques réflexions comme ça, avec des belles phrases. Il dit aussi, je me rappelle de mémoire, là, si Dieu n'existe pas, je ne donne pas cher de l'humanité. Puis ouais. Il ajoute, si Dieu n'existe pas, qu'il ait pitié de nous.
Oh, alors, aussi.
C'est très profond. Hein.
Ah oui, oui, absolument. Absolument. Ah, oui. Donc, je comprends que finalement, une lecture... c'est quasiment impossible. Hein. C'est un livre qu'il faut lire et relire encore, j'imagine, pour, pour en découvrir toute la substance. Hein.
Ça fait trois fois que je le lis. Il dit aussi une de ses belles phrases, c'est « La vie est belle. Elle est cruelle parfois, mais elle est belle. Ouais. » Puis je pense qu'il a l'expérience de la vie pour pouvoir en parler à son âge. Il a vécu.
Absolument. Jean Brière, c'est un bonheur de vous entendre parler d'un livre comme ce livre-là de M. d'Ormesson. Ça me donne envie de vous réentendre très régulièrement à cette émission-là. Est-ce que je peux compter sur vous?
Ben, pourquoi pas?
Yes!
Non, mais vous me promettez de le lire.
Là. Ah oui, bah écoutez, ça fait partie des livres qui sont sur ma table de chevet, mais il faut que je vous avoue quelque chose, j'en ai quelques-uns sur la table de chevet. Comme je dis toujours, c'est ma tour de Pise et j'ai un peu toujours peur que ça tombe. Jean, je vous avais promis qu'on allait écouter cette chanson. C'est une demande, c'est vous qui me l'avez demandé et on va l'entendre. Et je trouve que ça va faire un lien parfait avec Alain Labonté qui est déjà arrivé en studio. Alors, je voudrais vous remercier, vous donner rendez-vous à une prochaine fois. Et on se laisse sur Diane Dufresne. Au revoir, Jean.
À la prochaine.
Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Na 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 du du, va 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 vi vi. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre.
J'ai un flash là qui vient de, mais vraiment juste de me venir à l'esprit. On vient d'entendre Diane Dufresne, bien sûr, avec Hymne à la beauté du monde. Et j'ai envie de vous dire, ça pourrait s'appeler Hymne au la bonté de ce monde.
Oh là là.
Et le la bonté de ce monde, il est près de moi,
mais
Alain.
Mais c'est gentil.
Mais c'est pas gentil. C'est, je veux dire, tout le monde le dit dans le métier. On sait que vous portez très bien votre nom, ah. Alain la bonté.
Ah ben... Ça me touche.
Et bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
J'accueille, oui, le philanthrope, l'homme de cœur, mais j'accueille aussi l'homme de mots parce que vous avez écrit ce livre, Une âme et ses quincailleries, que vous êtes venu lire vous-même,
oui,
bénévolement, oui. Ici, pour qu'il soit disponible auprès de nos auditeurs.
Absolument.
Et je peux déjà vous dire qu'il est déjà disponible via le SQLA. Alors,
moi, ça m'a
fait.
Beaucoup touché quand on m'a appelé pour me demander ça et j'ai accepté sur le champ. Honnêtement, je suis content.
Le plus beau compliment qu'on vous fait souvent, c'est « Merci, vous m'avez fait du bien ». C'est ce que vous disent les gens. Est-ce que vous, en le lisant à voix haute, d'abord, est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez même vous-même relu peut-être des choses que vous n'aviez, en tout cas, que vous aviez peut-être besoin de vous remettre à l'esprit? Et est-ce que ça vous a fait du bien de le lire à voix haute?
Premièrement, il y a toujours une première écriture, un premier jet.
Ouais.
Mais j'ai l'habitude de me relire à haute voix.
Ah, OK.
Et c'est pour ça que dans le livre, il y a beaucoup d'espace.
Oui.
Souvent, il y a un paragraphe, un espace, il y a une ligne, un espace. J'aime écrire de la même façon que l'on lit, que l'on respire.
Avec des pauses.
Oui. Donc, c'est sûr que lorsque je suis venu le lire ici, il y avait quand même quelques semaines que j'avais terminé le livre. Donc, j'ai replongé dans l'histoire et je dois être honnête, il y a eu des moments avec ma mère et avec mon père qui m'ont bousculé par en dedans.
Mais oui, sûrement. Ouais. Parce que nous, qui ne sommes pas vous, évidemment, qui n'avons pas vécu cette histoire-là, mais qui avons tous eu, ou en tout cas pour beaucoup d'entre nous, des parents, on est déjà très touchés. Alors j'imagine, vous, justement, de revoir toutes ces images, ça n'a pas dû être très facile. Hein? Les Kleenex n'ont jamais dû être bien, bien loin.
Ben, je ne suis pas quelqu'un qui pleure vraiment dans la vie. Et au contraire, ce n'est pas parce que je me retiens, parce que j'ai toujours eu un père qui pleurait devant nous, qui nous prenait dans ses bras, qui nous disait qu'il nous aimait, qui nous embrassait. Une mère, ma mère, la même chose. Donc, pour moi, c'est comme quelque chose d'hyper naturel et de normal de pleurer. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, par contre. Mais je dirais qu'il y a 3 personnes sur 5, au moins, qui m'écrivent, qui me disent qu'ils ont pleuré en lisant mon livre.
Ah oui, c'est sûr.
Donc, ça me touche parce que je pense avoir réussi, à travers certaines phrases, d'atteindre le cœur des gens. Et c'est ça qui est important.
On vous a comparé, parce que parlons-en de ces phrases-là, ce sont souvent des phrases courtes, des phrases chocs, mais surtout des phrases puissantes, parce que vous êtes un homme de peu de mots, mais chaque mot
compte,
c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de 36 000 verbes et adverbes et autres tournures de phrases alambiquées. Avec vous, on y va directement. Voyez-vous,
il y a une phrase qui a beaucoup de journalistes qu'ils ont retenu, c'est lorsque je parle de ma mère et que je dis quand on me demande ce que ma mère fait dans la vie, je réponds qu'elle donne et que le reste du temps, elle cherche à qui donner.
Ah oui. Hein?
Donc c'est le genre de phrase, je pense, qu'on peut trouver dans mon livre.
Et cette femme-là vous a inculqué j'allais dire cet art de donner. Je vais peut-être dire cet art-là parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas recevoir et du coup, souvent, qui ne savent pas donner.
Oui, effectivement, je pense que j'ai eu des beaux modèles dans ma vie. Mm-hmm. C'est drôle parce que moi, ça m'a pris 4 ans à écrire ce livre-là. Bien entendu, j'aurais pu le faire en 1 an si j'avais eu que ça à faire. Mais bon, j'ai un bureau. J'ai d'autres responsabilités. Au moment de faire des entrevues, beaucoup de gens me disaient « Ah, vous avez eu une enfance pas facile avec votre mère. » Et je disais non. Je disais pas du tout. Je disais « Moi, je réalise que j'ai eu la mère qu'il me fallait. » Parce que pour les auditeurs, c'est le premier chapitre qui est ma mère.
C'est ça.
Donc, je revisite la vie de ma mère à travers sa maladie mentale. Mm-hmm.
Elle était en dépression nerveuse.
Oui, même l'an dernier, elle a eu encore des électrochocs. Donc, ma mère a 77 ans aujourd'hui.
Vous savez que moi, j'ignorais qu'en 2015, on utilisait encore les électrochocs.
Et de plus en plus.
Ça m'a...
Oui. Et le deuxième chapitre, c'est mon père. Donc, je revisite la vie de mon père à travers les 3 derniers mois de son existence où nous l'avons accompagné, mes frères, mes sœurs et moi. Et le dernier chapitre, c'est moi, donc la quarantaine, le silence qui occupe. Donc, c'est un regard sur l'existence par rapport à ce que j'ai reçu de mon père et ma mère. Et lorsqu'on me disait que, l'enfance avait peut-être pas été simple avec ma mère, mais c'est ça, je réalise au fait que j'ai eu la mère qu'il me fallait.
C'est ça.
En ce sens...
D'ailleurs, c'est une de vos phrases, hein, Hélène.
Oui, oui. En ce sens que, elle avait ses dépressions à répétition, mais ma mère avait la bienveillance qu'il fallait. Elle avait la tendresse qu'il me fallait. Et en contrepartie, moi, je pense que j'avais la force qu'il fallait pour l'accompagner dans sa détresse.
D'ailleurs, vous avez cette phrase magnifique. Quand elle mourra, ce sera l'amour qui lui fermera les yeux. Mm-hmm. Pas une grippe, pas un cancer.
Ouais.
J'ai trouvé ça, évidemment. De toute façon, j'en ai tellement surligné dans votre livre. Moi qui ne dors que 3 heures par nuit, c'est vrai ça?
Mm-hmm.
Ouais. Un autre Grégory Charles. On en a trouvé un deuxième au Québec. Alors, moi qui ne dors que 3 heures par nuit, j'aimerais tant, en fermant les yeux, m'absenter du réel aussi souvent qu'elle.
Mm-hmm. Oui, parce que moi, j'ai toujours trouvé la vie difficile, bien que ma vie est merveilleuse. Je parle de la vie.
Oui, oui, d'accord.
Et il y a une différence entre la vie et ma vie. Ma vie, elle est formidable. Je suis en santé, je touche à mes rêves. Bon, je suis bien entouré.
Vous amis, voyagez beaucoup.
Oui, bon. Mais quand je regarde la vie, pour moi, c'est une énorme déception, ce que je vois en 2015. On n'avance pas, on n'évolue pas. T'sais.
Non,
c'est
ça.
Pour ça que des fois, je me dis, ah, j'ai envie les gens qui dorment 8 heures, qui s'absentent du réel et qui rêvent un peu.
Ah oui, oui, c'est ça, parce que moi, ça me surprend toujours quand je vois des gens comme ça, 3 heures, je me dis, oh mon Dieu. J'ai tellement de questions. Les impatients aussi, vous avez omis ce petit chapitre-là. Il est plus court que les autres,
oui.
Mais les impatients, ça a été votre premier gros contrat.
Mon premier contrat.
Hein? Le premier, hein?
Oui, ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Donc, Les Impatients est un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui font des ateliers de création artistique, que ce soit la peinture, le dessin, la danse, le théâtre et tout ça. Et sans le savoir, j'ai l'impression que c'est ma mère qui m'a conduit là, bien qu'elle n'a jamais fréquenté ces ateliers-là. Mais j'ai tellement grandi dans la santé mentale que quand j'ai eu ce premier mandat-là, pour moi, c'était comme quelque chose de facile, un univers que je connaissais, dans lequel il était très simple pour moi d'entrer, de l'habiter. Et je tombais en amour avec eux, tout simplement. Et lorsque j'ai décidé de justement réaliser ce premier livre, j'ai demandé aux impatients de faire des illustrations, des dessins.
Donc, je
pense qu'il y a 9 ou 10 dessins
des
impatients. Et c'était important pour moi de faire ce voyage-là avec eux.
Oui.
Oui, je suis content.
Et là, j'ai laissé un petit silence, parce que de toute façon, c'est important, le silence pour vous. Mais d'ailleurs, vous en parliez, parce que quand il y a des paragraphes comme ça et des courts paragraphes, c'est le silence entre deux.
C'est très, très important pour moi. Ben, je fais régulièrement, les gens qui me connaissent bien, je fais régulièrement des retraites silencieuses dans des abbayes. Je vais souvent dans les déserts. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie.
Mm-hmm. Dites donc, elle doit être drôlement fière, votre mère, non?
Ben, je pense que oui. Mais d'une part, j'étais un petit peu nerveux au moment de la parution de mon livre parce qu'elle n'était pas bien.
Ah.
Et je trouvais que mon livre sortait à un drôle de moment. Mais je lui ai expliqué, bien entendu, parce qu'il y avait beaucoup de passages que je lui avais lus déjà quand même, parce que je voulais avoir son approbation, qu'elle soit confortable, qu'elle soit à l'aise aussi avec le fait de parler de sa maladie et tout ça. Mais je lui ai dit, il faut que tu retiennes une chose, c'est que oui, il y a des passages qui sont difficiles, mais je pense que mon livre est très lumineux. Et à la toute fin, tu vas réaliser une seule chose, et c'est la plus importante, c'est que je t'aime. Donc, ne retiens que cela. Et c'est ce qu'elle a fait.
C'est très, très beau. Il y a une phrase que vous avez notée, vous m'avez dit hors d'onde tantôt, il y en a une que j'aime beaucoup, et je vous ai dit, je suis sûre que je l'ai soulignée aussi, c'est celle-ci. Du moment que l'on aime, un deuil s'installe dans l'ombre de la joie.
Mm-hmm. Oui, ben, je pense qu'il y a toujours une douleur qui se cache derrière un grand plaisir.
Oui.
C'est comme le contraire de la vie et de la mort, c'est comme on n'y échappe pas.
Si je vous demandais de nous en lire un petit bout, est-ce que vous accepteriez?
Bien sûr.
Ce que vous voulez, ça peut être le début du premier chapitre concerné à votre maman.
Peut-être,
ou ça peut être...
Je vais parler des femmes.
Oh, ben oui. Ouais. Allons-y.
En donnant la vie, certaines mères se mettent à l'écart de la face du monde. Elles jouent le rôle de leur vie en prenant le second rôle, en offrant le devant de toutes les scènes à celles et ceux qui sont directement liés à elles. Ces mères ne dorment jamais, ou si peu. Elles dorment dans les métros, dans les autobus, debout, dans les files d'attente. Elles dorment quand la situation s'y prête. et quand elles dorment la nuit, elles voient ça comme un extra qu'elles savourent. Les mères n'enseignent pas la guerre. Ce sont les hommes, là où ils passent, qui foutent le bordel. Elles ne violent pas non plus, ne lancent pas de roches ni de bouteilles vides. Non, les mères, jour après jour, elles enseignent l'amour dans chacun de leurs gestes, de la purée aux souliers lacés, lorsqu'un corps fiévreux doit rester sous les draps, quand vient le temps où les membres de son clan quittent un à un la maison. Ça prend trois femmes pour faire le monde, une qui danse dans la lumière, une autre qui porte la nuit à bout de bras et enfin une dernière qui chante des comptines. Ainsi, la Terre effectue une rotation régulière et tout le reste trouve naturellement son chemin. Ma mère est l'une de ces mères. Elle est l'une de ces trois femmes qui nous sauvent sans relâche des griffes de la noirceur.
Très touchant. C'est très, très, très touchant.
Bien, je... Mais... Ça représente bien ce que je pense, parce que j'ai toujours dit, moi, si la Terre était gouvernée par plus de femmes, ça irait drôlement mieux dans la vie. J'en suis convaincu.
Mais il y a papa aussi.
Oui, mon père.
Papa est drôlement important aussi. Lui aussi, là-dedans, il a la place dans la vie d'Alain Labonté.
Moi, j'ai eu le meilleur des pères que l'on peut avoir. Mon père était vaillant, bienveillant, drôle. Il chantait, jouait du violon, il giguait. Il allait bûcher, il pleurait devant nous, il nous prenait dans ses bras, il nous embrassait. C'était un homme complet. Et moi, je considère... Mon père est décédé, ça fait 8 ans. Il avait 75 ans quand il est décédé. Et aujourd'hui, je regarde les hommes de ma génération. Moi, je vais avoir 49 bientôt. Et encore, il y a beaucoup d'hommes qui sont gênés de pleurer, qui ne sont pas capables d'ouvrir les bras, qui ne sont pas capables d'embrasser. Donc, je me dis, moi, j'ai un père qui est né en 1932 et qui était capable de tout ça.
Ah oui.
Donc, j'ai eu un héritage formidable.
Ah oui, parce que capable de dévoiler toutes ses émotions, parce que c'était une génération...
Ah oui. Donc, c'est là que des fois, quand on parle d'héritage aujourd'hui, je me dis, l'argent, c'est secondaire. je préfère avoir eu ça.
J'ai repensé après, je l'aurais programmé, mais à l'émission, à la chanson « Utile » de Julien Clerc.
Oui,
c'est
vrai.
Je veux être utile, moi.
C'est vrai.
Et je trouve qu'elle vous va très, très bien. On n'a plus qu'une minute. Le prochain pyjama littéraire, parce que c'est vous qui avez créé ça,
oui.
c'est au mois de novembre. Hein?
Oui, le 23 novembre, et ça va être au profit de Leucan.
Ah, c'est ça, parce qu'à chaque fois, c'est au profit d'un organisme
c'est
différent.
C'est ça, tous les profits retournent à l'organisme, et on lit des textes en lien avec la cause, on chante.
Oui.
Et là, déjà, je peux dire que le 23 novembre, il y aura assurément Claudia Larochelle, Sophie Fauché, Emmanuel Bilodeau, Dominique Paquet.
Oh, wow.
Donc, ça risque d'être formidable.
Merci beaucoup et bienvenue à vous toutes et vous tous non-voyants, parce que c'est beaucoup de lecture et de musique à entendre. Merci, Alain
Labonté. Merci,
merci infiniment d'être venu. Vous écoutez Des livres plein les oreilles avec Clotilde Seil et ses invités. Avant de m'entretenir avec Gérard Saint-Denis, on va mettre un petit peu d'ambiance. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can
never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, up to you.
Et après Monsieur Frank Sinatra, voici Monsieur Gérard Saint-Denis. Bonjour Gérard.
Bonjour chère dame.
Trouvez-vous que j'ai bien mis la table?
Je nous souhaite une belle nouvelle saison.
Oh, merci Gérard.
Et
merci.
Je dois vous dire, je devrais faire une confession, chère dame.
Oui.
J'ai rêvé à vous pendant plusieurs soirées avant de m'endormir. C'est
comment?
Incroyable. Hein? Et j'ai fait cette confession-là devant tout le monde, car j'ai lu le fameux volume sur Clotilde. L'épouse de Clovis.
Ah, ben oui.
Ah, c'est merveilleux.
Ah,
c'est
mon
merveilleux,
Dieu.
Merveilleux, merveilleux. Et j'ai trouvé des similitudes. J'aurais le temps d'en parler, mais je n'ai pas le temps.
Oh, ben prépare-nous une chronique là-dessus.
Ce morceau-là pour nous amener à parler des États-Unis.
Hein. Ben oui.
New York, New York. C'est bien, bien, bien.
Ça met dans l'ambiance. Alors, allez-y.
On y va?
Oui, on y va. Alors, donc, chronique de livres sur les États-Unis.
Oui, j'ai choisi ça comme thème. On va faire des thèmes aux 15 jours de même. Là,
mm-hmm.
Puis, là, j'ai parlé un peu des États-Unis. Il y aurait tellement à dire, mais j'ai choisi 7-8 livres que je vous suggère. Le premier, c'est sur George Washington, qui est quand même un bonhomme formidable. C'était mm-hmm. quand même celui qui a gagné la guerre de l'indépendance. C'était le premier président. C'est un bonhomme engagé, etc. C'est merveilleux. C'est un beau livre qui est facile à lire et on le retrouve. C'est George Washington, ou SQLA, ce livre.
Et je voudrais préciser que l'auteur est George Roth, R-O-T-H.
C'est bien ça, exactement. L'autre que j'ai choisi, c'est très rapide, ça se lit assez bien. C'est j'ai fait un rêve. Ouais. Ce sont les grands textes de Martin Luther King. On ne peut pas faire autrement que de parler du problème des Noirs. On vient d'avoir des problèmes qu'on a vus partout.
À Ferguson,
Ah, et je pense que c'est très bon. Et ça se lit très bien. C'est très, très intéressant. C'est un recueil, c'est fait par lui, c'est un recueil de textes les plus importants, les plus pertinents de ce côté-là.
Sur la non-violence et la justice raciale, c'est ça.
Oui, qu'on a besoin, puis on voit ce qui s'est passé à Ferguson, etc. On voit ce qui se passe ailleurs aussi. Mm. C'est important, très important.
Et attendez, je voudrais quand même dire qu'il y a justement le discours qu'il avait prononcé en 1963, le célèbre discours « I have a dream », évidemment.
« I have a dream », oui, ce fameux discours que j'ai entendu, que je me souviens très bien d'avoir entendu. Moi, je suis né en 38, donc j'avais 25 ans.
Mais oui.
Et donc, je m'en souviens très, très, très bien. Le troisième, c'est un autre président. C'est pas n'importe lequel, c'est Abraham Lincoln. C'est cher Abraham. Ça montre un peu l'histoire de Dream des États-Unis.
Oui.
Tu peux partir de rien et devenir président. C'est quelque chose quand même. Et il démontre ça dans ce livre-là. On voit comment il est parti de rien puis il est devenu le président.
Oui.
Un président très dynamique, très engagé, etc. Et c'est qu'est-ce que vous voulez? Il a été assassiné. malheureusement,
plus.
Par un malade. Mais c'est deux belles histoires intéressantes.
Et alors ça a été signé par Bernard Vincent, je ne sais pas s'il faut le
c'est
franciser.
Ça, c'est OSQLA.
Et c'est OSQLA. Donc Vincent, ça s'écrit comme le prénom, V-I-N-C-E-N-T.
V-I-N-C-E-N-T, oui.
OK. Ensuite?
Ensuite, on s'en va, les Canadiens français et la guerre de sécession.
Oui.
Et ça, c'est par...
Jean Lamarre.
Jean Lamarre, c'est ça. Ça, c'est un... Vous savez que les Canadiens français se sont impliqués dans la guerre de sécession. Mais l'Église, dans le temps, appuyait davantage les gens du Sud.
Ah oui. Ouais.
Donc, les esclavages, c'est
oui.
ce qui va préconiser l'esclavage.
Oui, c'est ça.
C'est assez
oui.
étonnant quand même.
Mais oui, c'est ça.
Par contre, les Canadiens français ont opté pour les gens du Nord, les industriels. Ils ont été plus près, ils ont travaillé davantage avec les gens du Nord. Et, mais ça montre quand même un peu comment ça pouvait se passer. C'est très intéressant parce que ça fait partie tellement intégrale de l'histoire des États-Unis, cette guerre de sécession. C'est très, très, très important. Donc, on peut l'organiser. Mais ça se lit très bien. C'est pas trop long à lire. Et bon. c'est très intéressant.
Les Canadiens français et la guerre de sécession par Jean Lamarre.
C'est ça. Après ça, j'ai deux histoires des États-Unis. J'en ai une qui est signée par Lise Poitier, P-O-T-H-I-A-R, et qui est une classique, si on veut, qui se lit très bien, qui est facile. Elle est assez chronologique. Et on peut suivre un peu toute l'histoire de
des États-Unis.
Pays-là.
D'accord.
Ça, c'est OSQLA, puis c'est par Lise Poitier.
D'accord.
Et j'ai aussi une histoire des États-Unis qui est nommée Schoell, C-S-C-H-O-E-L-L.
Oui.
C'est une autre histoire, mais là, c'est pas tout à fait pareil. C'est plus social. On dirait que l'auteur est plus engagé. Mais c'est fort intéressant. Fort, fort intéressant. Et c'est au SQLA qu'on le trouve.
D'accord.
Ça va bien, là.
Ça va très, très bien. Il nous reste un petit peu plus de 2 minutes, mon ami.
Bon. Il y a... On ne peut pas passer. Moi, je ne peux pas passer sans dire un mot. La guerre, selon Bush.
Oui.
Je pense que c'était le pire des présidents. Tout le monde va convenir de ça. Et on peut quand même le lire. C'est écrit par M. Suskind.
Oui.
S-U-S-K-I-N-D.
Voilà.
Et... Bon, si vous voulez lire.
C'est un journaliste américain qui a écrit qui a d'ailleurs été lauréat du prix Pulitzer. Bon,
c'est très bien écrit, bon. Mais ça montre quand même un volet écœurant, mon ami. Je suis pas bébé, je n'ai pas aimé ça.
mais c'est bien d'en parler.
Non, mais il fallait pas en parler pareil. Il y a une affaire qui est intéressante aussi à propos d'Obama. C'est une lettre, Mr. President,
oui.
qui est une lettre de M. Stanger, un journaliste à Stanger, qui avait envoyé à M. Obama au début de son mandat une lettre pour lui dire qu'est-ce qu'il devait faire.
Ah oui, hein? Carrément.
Oui, mais là, on verra s'il l'a fait. Les gens pourront le trouver. C'est sur un cas. On
D'accord.
trouve ça sur un cas. Et c'est S-T-A-N-G-E-R.
C'est ça. Et puis là, on arrive à votre choix. Mais avant, je voudrais faire écouter très rapidement une musique parce que ça va mettre les gens sur la voie.
Oui.
On écoute ça. Hein? Tous les gens qui ont vu le film, ils se souviennent bien, hein? Gérard.
Imaginez, Clotilde, que je dois vous avouer que j'ai vu ce film-là en 1961 à Paris.
À Paris?
À Paris, et l'original, 3h30.
Et c'est donc autant en emporte le vent.
Le Québécois, là, qui était à Paris à 22 ans, là, qui s'installe dans le cinéma pour écouter un film de 3h30, il faut le faire. Mais c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux. C'est autant en emporte le vent. On peut le trouver. Le livre est en 3 volets. Et ça vaut la peine, même si on a vu le film, on peut prendre le livre, parce qu'il y a beaucoup de détails dans le livre qui n'apparaissent pas dans le film nécessairement, ou qu'on ne peut pas percevoir parce que le film, ça roule vite. Et moi, je recommande aux gens, moi je dirais, gardez-les pour les débuts d'automne, quand il fait mauvais. Vous installez puis vous mettez, écoutez ça, là. C'est merveilleux. Et c'est toute l'histoire de cette fameuse histoire de la guerre de sécession qui a fait tellement mal et en même temps qui a tellement soudé les États-Unis, deux, là. C'était, fait qu'il y a le tome 1, il y a le tome 2, puis il y a le tome 3.
C'est ça.
Et on trouve ça, si je ne me trompe pas, à l'INCA.
Oui, c'est ça, exactement, à l'INCA.
C'est écrit par Marguerite Mitchell, mais vous allez voir, c'est bien traduit, c'est très bon. Et c'est un roman, moi, j'aime les romans historiques, mais celui-là, plus que d'autres, parce que celui-là, il y a beaucoup de vérité sociale, vérité qu'on a du vécu, etc. On a des belles lectures pour parler des États-Unis.
Et puis, à toutes les deux semaines, vous reviendrez comme ça pour nous citer le plus...
Je ne peux pas vous dire ce qu'on va parler dans deux semaines. Je n'ai pas le droit.
Si, pourquoi pas. Mais rapidement, parce que là, vous venez de manger deux minutes à l'émission.
Préparez-vous, on va parler des chats.
Des chats, parfait.
S-H-A-T, chats.
Merci, merci beaucoup.
Au plaisir, je salue vos auditeurs et nous souhaitons une belle saison.
Merci Gérard, vous êtes formidable, je vous adore.
Au revoir.
Au revoir. Cette petite musique-là qui fait très cinéma des années 60-70, c'est pour nous amener à la rubrique bande-annonce, pour vous annoncer ce qui vient la semaine prochaine. Et je dois vous dire que je suis particulièrement fière et émue de vous annoncer que c'est Dany Laferrière qui a accepté de venir nous rendre visite à cette émission. Je vous avouerai que tant que je n'ai pas vu s'ouvrir à la porte, je n'y croirais pas complètement, mais pourtant je vous assure que c'est vraiment confirmé. Je vais profiter du fait qu'il est jury, qu'il est président même du jury du Festival des films du monde pour le recevoir. Alors évidemment, il sera question... d'un peu de tous ces livres, mais on va faire quand même un espèce de gros plan sur deux parmi eux. D'abord, l'art presque perdu de ne rien faire, rien que pour cette scène absolument magique où il nous dit comment manger une mangue en Haïti alors qu'il fait une chaleur à crever. Alors il faut la manger pour les hommes torse nu avec une bassine d'eau devant, comme ça, histoire de s'en mettre bien, c'est histoire que le jus de la mangue dégouline bien. Et ensuite, eh bien, on se nettoie, on se passe de l'eau et ensuite, on s'en va se coucher. En tout cas, c'est vraiment hymne à la langueur avec l'art presque perdu de ne rien faire. J'ai tellement hâte d'en parler avec Dany Laferrière. Je vous propose un extrait de ce livre-là tel que lu chez Vues et Voix, où il est question, je pense, de la sieste, peut-être. On y va.
D'un petit air innocentissimo. Les yeux crépitants comme des fagots. Elle me dit, viens, essayons de faire dodo. La petite sieste, elle a bon dos.
J'ai connu vraiment la sieste en exil. C'est à Montréal que j'ai eu envie de dormir en plein jour. Le sommeil est une merveilleuse machine qui permet de remonter dans le temps. Les rêves que je faisais le jour semblait plus gai, plus vivant que ceux de la nuit. Je me dépêchais de rentrer. Je fermais la fenêtre, une habitude que je garde de l'enfance, avant de plonger dans les draps blancs et frais.
Cette petite sieste m'a fait du bien. Demain, on la commencera plus tôt. Car je sens, bon Dieu, qu'il va faire chaud.
Et puis nous évoquerons avec Jacques Tremblay, qui est celui qui a lu un autre livre de Dany Laferrière, nous évoquerons Le journal d'un écrivain en pyjama, où je peux lire et permettez que je vous lise une quatrième de couverture. Je le fais rarement, mais dans ce cas-ci, comme elle est signée Dany Laferrière, je ne résiste pas. Après L'art presque perdu de ne rien faire, ce roman des idées, j'ai voulu réfléchir sur la lecture et l'écriture, deux activités qui enchantent mon esprit. J'ai écrit ce livre dans mon lit, entre 3h et 7h du matin, au moment où la ville s'active. Je me rendors, voici quelques notes griffonnées en pyjama. Viser le cœur du lecteur, même si l'on sait que c'est avec sa tête qu'il lit. Écrire est d'abord une fête intime. Plus vous mettez de choses dans votre livre, moins on sentira votre présence. Une journée est parfaite quand on se met subitement à danser avec la chaise sur laquelle on s'était assis pour écrire. Les gens veulent toujours savoir d'où viennent toutes ces idées qu'ils voient dans les livres. Ça ne leur est jamais venu à l'esprit qu'elles viennent d'eux, mais sans cette modestie du lecteur, il n'y aurait pas de littérature. Ouvrez n'importe quel livre de votre bibliothèque, prenez une seule phrase qui vous plaît et mettez-la telle qu'elle dans votre livre. Cette opération s'appelle « faire payer les riches ». Tout le problème vient du fait que l'écrivain soit devenu plus connu que le livre. N'espérez pas devenir un écrivain sans vanité, car ceux qui ont tenté le coup sont devenus au mieux des mystiques. Quand vous cherchez depuis un moment à décrire la pluie qui tombe, essayez, il pleut. Les livres ne se font pas par hasard, mais parce qu'il y a des lecteurs qui, du fond de leur chambre, les réclament en silence. Voici pour la page de couverture et permettez-moi de vous faire entendre un extrait du livre « Journal d'un écrivain en pyjama » tel que lu par Jacques Tremblay, qui sera également un de mes invités la semaine prochaine.
Je ne sais pas pourquoi j'étais sûr que ce livre allait me sortir de ce trou. Pour écrire, il m'a fallu arrêter de travailler. Mes maigres économies baissaient à vue d'œil. Je devais faire vite et court. Je ne disposais pas des mêmes ressources financières que ces jeunes écrivains américains qui pouvaient laisser courir un premier roman jusqu'à 600 pages. Seul dans une ville inconnue, j'ai donc réduit au minimum mes dépenses et entrepris de séduire la fille du propriétaire de l'immeuble où je créchais. Le propriétaire, un Italien, ne m'avait pas à la bonne. Je m'arrangeais pour croiser sa fille plusieurs fois par jour dans l'escalier, et nous nous retrouvâmes un soir dans ma chambre. Depuis, je n'ai plus eu à payer de loyer.
Que ça lui va tellement bien, ça. Cool, cool, cool. Faut rester cool. À chaque fois que j'entends Denis Laferrière, je l'associe à cette vieille chanson interprétée ici par Guy Marchand. Et puis, si nous avons le temps la semaine prochaine avec Denis Laferrière, nous évoquerons un livre dont il est passionnément amoureux. Il en parle à tout le monde, il le recommande à tout le monde, il l'offre à tout le monde. C'est « Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain. Donc, ne ratez pas la semaine prochaine des livres plein les oreilles. Ici, avec Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. C'est un rendez-vous, ne ratez pas ça. J'ai pris l'habitude d'associer une nouvelle que j'ai prise comme ça dans les journaux avec des titres de livres. Et là, cette fois-ci, eh bien, c'est cet été que j'ai trouvé cette nouvelle au sujet des manuscrits de Kafka qui vont demeurer la propriété de la Bibliothèque nationale. Un vrai roman de Kafka que cette histoire. Franz Kafka, figurez-vous, avait demandé à son ami Max Brod de brûler tous ses écrits après sa mort. Sa mort survenue en 1924, alors que l'écrivain juif pragois n'avait que 40 ans. Mais cette demande n'avait pas été respectée par son exécuteur testamentaire. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne en 1939, Max Brod a immigré en Palestine, emportant avec lui des manuscrits de Kafka, qu'il lègera à sa fidèle secrétaire, qui s'appelait Esther Hoff, à sa mort en 1968. Et dans son testament, il a demandé à Madame Hoff de léguer à son tour ses archives, évaluées à plusieurs millions de dollars, à l'Université hébraïque de Jérusalem ou à la Bibliothèque municipale de Tel Aviv ou à une autre institution en Israël ou à l'étranger. Mais l'ancienne secrétaire, morte en 2007, a partagé la succession entre ses deux filles et la collection Brod est devenue l'enjeu de disputes entre instituts universitaires, archives nationales allemandes et israéliennes, puis héritière de Madame Hoff. Madame Hoff avait même vendu le manuscrit original du procès, le livre Le Procès, aux archives nationales allemandes, un document que réclame, entre autres, la justice israélienne. Au fil des années, d'autres documents de l'héritage Brod ont été vendus à des collectionneurs, tandis que le reste des manuscrits a été mis dans des coffres bancaires en Israël et en Suisse. En 2012, la justice israélienne avait déjà tranché en faveur de la Bibliothèque nationale et le tribunal de district de Tel Aviv avait rejeté l'appel de Mme Hoff contre la précédente décision de justice. Eh bien, les juges israéliens ont qualifié de criminel la manière dont cette collection avait été gérée par la famille Hoff. Donc, les manuscrits de Kafka qui vont demeurer la propriété de la Bibliothèque nationale. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce que nous avons ici au Québec en livre audio adapté? Qu'est-ce que nous avons disponible de Franz Kafka? Eh bien, nous avons la colonie pénitentiaire et le journal intime tout court, ça c'est au SQLA que c'est disponible. Et à l'INCA, nous avons La Métamorphose et autres récits, Franz Kafka ou Le Cauchemar de la Raison, ça c'est d'Ernst Powell, en fait c'est une espèce de biographie sur Franz Kafka, également disponible à l'INCA, et le fameux manuscrit Le Procès dont je vous parlais dans cet article qui venait de l'agence France Presse et ça avait été relayé par Le Devoir cet été, je vous le rappelle. Alors voilà, La Colonie pénitentiaire, Journal intime, La Métamorphose et autres récits et Le Procès sont quatre livres de Kafka qui existent en format audio adapté au SQLA et à l'INCA. Je pense que ça vaut le coup peut-être d'aller jeter une petite oreille là-dessus. Je m'en voudrais de ne pas terminer cette émission sans cette rubrique des titres en rafale que vous aimez beaucoup. Il n'y a pas de raison, même si l'émission à livre découvert n'existe plus, pendant l'émission des livres plein les oreilles, on finira évidemment toujours cette émission-là avec ces titres en rafale. Alors, je commence avec « Ma vie rouge Kubrick » de Simon Roy. C'est à l'âge de 10 ans que Simon Roy a découvert le film « The Shining ». Il a été médusé par une réplique. « Tu aimes les glaces, canard ?» Et depuis, il a revu au moins 42 fois ce film, sans doute parce qu'il contient les symptômes tragiques d'une fêlure qu'il habite depuis des générations. Alors, la relation méticuleuse entretenue avec le maléfique récit lui aura permis d'intégrer des éléments troubles de sa généalogie macabre et d'en accuser le coup. C'est un ouvrage singulier et complètement stupéfiant. La mort de Peter Pan de Claire Varin. On parle là de Malcolm Walker qui passe son enfance successivement dans une crèche, un orphelinat, un foyer d'accueil et une école de réforme avant d'être repris par sa mère quand elle en a les moyens financiers. Boucher de profession, Malcolm collectionne les conquêtes féminines grâce à un étrange magnétisme. Celle qui fut sa dernière flamme retourne donc sur les lieux où il a vécu ou ce qu'il en reste. Un autre film que j'ai à vous suggérer, c'est « Mourir l'âme en paix » ou un plaidoyer pour des choix éclairés. C'est de Sylvie Ouellet. Ce livre propose une réflexion sur la vie, la mort et dignité pour que chacun puisse concevoir sa propre vision de ce passage de vie et effectuer des choix éclairés au sujet de la fin de l'incarnation. La responsabilité de trouver une information pour prendre une décision alignée sur sa vérité incombe à chacun. En démystifiant la mort, elle peut être vécue dans une plus grande sérénité. Cela est accessible à tous. Mourir l'âme en paix, plaidoyer pour des choix éclairés de Sylvie Ouellet. Monsieur Mercedes de Stephen King, je crois qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire ce que j'ai fait. La seule différence, c'est que moi, je l'ai vraiment fait. C'est un extrait du livre « Nous sommes dans le Midwest en 2009 ». Un salon de l'emploi, dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue. Soudain, une Mercedes rugissante fonce sur la foule. Et puis enfin, on va finir avec un livre alors d'un tout autre genre. C'est « La petite musique du silence » et c'est signé Yves Dutheil. On doit à Yves Duteil quelques grandes chansons du répertoire, évidemment, « Prendre un enfant par la main »,« La langue de chez nous » pour les enfants du monde entier. Voilà un homme généreux qui refuse de se replier loin de la rumeur, parfois tragique, du monde. C'est un artiste qui s'engage au sein de l'association qu'avec Noël, son épouse, il a fondée pour construire et gérer Après School, une école pas comme les autres, à Pondichéry, en Inde. Yves Duteil est aussi habité par une authentique quête spirituelle. C'est un guetteur d'aube qui éprouve régulièrement le besoin de prendre la plume pour confier son regard intérieur sur les êtres, la vie, le monde. Le silence intérieur est une expérience surprenante. Le murmure des profondeurs qui nous parle sans mots a tant de choses à nous dire. Alors pour peu qu'on laisse monter en nous la petite musique du silence, on lira ici de belles méditations où avec pudeur, tendresse, indignation, humour et une joyeuse maîtrise des mots, il révèle ses sentiers intérieurs. La petite musique du silence d'Yves Duteil. Voilà, ainsi s'achève cette émission numéro 1 de Des livres pleins les oreilles. En espérant qu'elle vous ait plu, j'ai été ravie d'être là. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, je reçois Dany Leferrière.